compagnie de Raymond Poirier, chroniqueur numérique. On va parler d'intelligence artificielle et de COVID-19. Bonjour Raymond.
Bonjour Caroline, sujet incontournable, évidemment.
Oui, exactement.
La semaine passée, on avait commencé à dessiner un petit portrait en fait d'initiatives, d'actions qui étaient menées à l'échelle internationale. J'ai décidé de poursuivre un peu dans ce sens, surtout que les Nations Unies viennent de publier, en fait, il y a quelques jours de ça, un Global Pulse qui a été préparé par des chercheurs de l'Organisation mondiale de la santé et du MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, dans l'optique de justement offrir une espèce de panorama des initiatives en recherche qui sont menées pour justement utiliser l'intelligence artificielle dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
OK. Alors, qu'est-ce qu'il en est?
Alors, ce qu'il en est, ben, on est un peu à la suite, en fait, de ce qui avait été placé la semaine dernière. Donc, spécifiquement, on remarque que quand on observe l'ensemble de ce qui a été publié à l'échelle internationale dans le milieu scientifique, eh ben, il y a trois secteurs qui dominent particulièrement. Donc, on parle du diagnostic individuel du patient et du traitement. Mm-hmm. On parle de recherche sur des nouvelles protéines, sur des nouveaux médicaments. Et également sur les impacts socio-économiques rattachés à la pandémie. Donc, évidemment, on peut y aller plus précisément, là, parce que ça, c'est les grandes catégories.
C'est beaucoup de choses. Ça fait énormément de données, j'imagine.
Ça fait énormément de choses. Plusieurs recherches qui sont lancées, certaines qui sont prometteurs, rien qui est finalisé, évidemment.
Ouais, ouais. Puisque
le virus étant nouveau, le domaine lui-même en fait d'études et le champ d'études reste lui-même relativement nouveau. Mais par exemple, quand on parle d'imagerie médicale, on l'avait abordé un peu la semaine dernière dans la mesure où c'est un secteur où l'intelligence artificielle, le machine learning, donc l'apprentissage machine, a déjà fait ses preuves. On sait que on peut utiliser ces technologies-là pour appuyer la lecture et l'analyse de différents éléments, exemple des fichiers images. Et justement, on essaie d'entraîner donc des intelligences artificielles à analyser des scans de poumons plus rapidement. Mm-hmm. On essaie d'aller chercher évidemment des données, donc des scans pour entraîner la machine de manière plus rapide. Donc ça, c'est un pan de recherche. Évidemment, on estime que c'est un pan qui est porteur parce que dans le contexte de la pandémie actuelle, mais si on est capable d'accélérer les diagnostics,
ben oui,
nécessairement on peut faire plus de tests, plus d'analyses, donc potentiellement trouver plus de vie. Parallèlement, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on essaie en parallèle d'entraîner des modèles d'intelligence artificielle pour identifier des cas potentiels de COVID-19 également. Donc, on essaie d'introduire parfois des modèles où il y a l'humain qui est dans la boucle mm-hmm. pour essayer justement de trouver des façons d'identifier les symptômes et le reste, donc plus rapidement, donc les tests. Donc, il y a cet élément-là. Et parallèlement, si on reste dans le médical à proprement parler, il y a aussi, évidemment, tout ce qui est rattaché aux médicaments.
Ouais.
Des scientifiques qui travaillent, on le sait, on le voit. Évidemment, il y a beaucoup d'épidémiologistes qui recherchent dans le domaine médical à proprement parler. Mais en parallèle, on imagine bien que des modèles d'intelligence artificielle peuvent aussi accélérer l'analyse des modèles, peuvent accélérer l'analyse des méthodes, peuvent accélérer l'analyse génomique, etc.,
ouais,
etc. Et parallèlement, peuvent aussi, quand on est plus dans le diagnostic, accompagner des professionnels qui sont peut-être moins formés quant à la maladie, les aider à aussi valider leur diagnostic. Donc, il y a ces éléments-là, mais évidemment, tout ça dans un contexte, et ça, c'est un autre défi, mais où il faut s'assurer que les données, que les protocoles cliniques et que les mécanismes de partage d'informations soient en place, soient organisés pour permettre ce type d'expérimentation-là et éventuellement permettre leur application.
Oui, c'est ce que j'allais te demander, Raymond. En science médicale, dans ce cas-ci, on fait des essais cliniques avant de mettre sur le marché un médicament. Il y aura plusieurs tests, plusieurs essais cliniques. Est-ce que dans le monde de l'intelligence artificielle, à vouloir aller trop vite, on pourrait faire des erreurs? Est-ce qu'on fait ce genre d'équivalent d'essais cliniques-là?
Bien, nécessairement. En fait, quand on travaille en santé, c'est les protocoles de la santé qui sont respectés parce qu'au bout du compte, c'est, pour reprendre le terme, la santé des gens qui est au bout. Donc, on ne peut pas se permettre de faire des erreurs. Et même s'il y a urgence, il y a des protocoles qui doivent être respectés, autant qu'il y a des protocoles de partage de données qui doivent être adaptés parce qu'on veut quand même préserver la vie privée des gens et ne reste donc pas nécessairement créer d'accro ou d'enjeux qui, après ça, pourraient être portés à problème par la suite. Donc, nécessairement, oui, il faut respecter ces protocoles-là dès qu'on parle de la santé des gens.
Oui. Ouais. Et concernant plutôt là, tout ce qui est, ben là, on a parlé de la médecine, mais tout ce qui est des autres domaines, est-ce qu'on veut des réponses? C'est sûr, là, on veut les réponses rapidement, mais on est encore dans un mode de recherche, là.
Nécessairement, on est encore dans un mode de recherche, même si des avancées qui sont très stimulantes qui sont faites, on en parlait sur le plan médical, il y a des avancées qui sont intéressantes, il y a des choses qui, à terme, pourraient peut-être être mises en place. En parallèle, c'est la même chose aussi quand on sort du médical, parce qu'évidemment, on le sait, on le voit, on le vit. La pandémie de COVID-19 a mis notre société, disons, à impact à différents degrés, en fait, des entreprises qui sont fermées, une détresse économique, la mise en place de cours en ligne, des gens isolés à la maison, dans un contexte où, au niveau national, au niveau local, voire même au niveau international, donc les informations changent quotidiennement et nécessairement, mais dans ce cas-ci, la production aussi de modèles de propagation, de modèles d'analyse, que ce soit autant pour les sources virales que des modèles à caractère plus économique, deviennent aussi assez intéressants. Donc parce qu'on doit s'adapter à une progression rapide des infections, parce qu'on doit s'adapter à un volume d'informations qui est important, qui est généré rapidement, et parce qu'on doit avoir une vision, certes à long terme, mais également à court terme, dans le développement des politiques publiques, dans la prise de décision qui est faite. Dans un contexte comme ça, on se dit il faut développer des modèles aussi, ou penser des modèles et adapter des modèles d'intelligence artificielle qui sont capables de s'adapter à des procédures constamment changeantes, à des protocoles constamment changeantes. Et donc, dans ce cas-ci, peut-être que pour appuyer cette prise de décision-là aussi, pour appuyer la compréhension de l'impact, des modèles d'intelligence artificielle pourraient se prouver vitaux pour, par exemple, des épidémiologistes qui doivent analyser des comportements qui sont complexes, à la fois d'humains et à la fois de virus.
Oui,
et à ça, on ajoute aussi toute la désinformation, toutes les faussetés qui sont lancées sur le web. Donc ça, c'est peut-être un autre élément, parce que quand on parle d'analyse du langage naturel, nécessairement, on peut penser que l'intelligence artificielle peut aider à l'analyse, au suivi des plateformes de médias sociaux, des plateformes en ligne qui sont devenues des points de distribution clés pour transmettre de l'information concernant le virus. Alors, de quelle manière on pourrait développer des systèmes pour analyser ce qui est publié, pour accompagner ces publications-là? Parce que, justement, il y a beaucoup de contenus qui sont validés, des organisations internationales, des médias reconnus et crédibles, mais il y a aussi, dans une logique d'infodémie, beaucoup de détails, d'anecdotes qui ne sont pas validés, qui ne sont pas rendus à un stade de validation suffisant pour dire que l'information est validée. Donc, nécessairement, il y a la vérification de faits qui est importante et qui pourra aussi avoir un impact favorable. Donc ça, c'est aussi un des éléments qui ressort particulièrement.
Oui, et on peut supposer aussi qu'au sortir de la crise, toute cette recherche-là va changer notre rapport à l'intelligence artificielle. Je pense vite comme ça un exemple, mais déjà les cours sont en ligne pour la plupart des étudiants de cégep, l'université, à l'école secondaire. On s'adapte est-ce qu'il y aura un retour à l'arrière? Pas certain, et on pourra développer ces modèles-là.
Oui, puis à la limite, en fait, ce qu'on pourrait toujours voir, c'est est-ce qu'on est en train de développer une approche de coopération internationale qui, de toute façon, est nécessaire dans le contexte actuel, mais qui pourrait être préservée par la suite, parce que nécessairement, dans le fond, on l'a dit la semaine dernière, on l'a dit cette semaine, la clé dans l'usage de technologies rattachées à l'intelligence artificielle, c'est de l'accès aux données. On ne peut pas faire l'intelligence artificielle sans données. Et donc, on en a besoin même parfois dans le cas du deep learning ou du machine learning, dans le fond, de quantités assez imposantes de données pour entraîner les algorithmes et les architectures de neurones. Donc, dans ce contexte-ci, ça veut dire qu'il faut avoir une collaboration internationale, qu'il faut avoir une vision pour la gestion des données, une vision pour la gestion des applications d'intelligence artificielle. Donc, ça implique une collaboration internationale qui doit se mettre en place et qui est en train de se mettre en place. Et dans les conséquences futures, les conséquences plus peut-être positives, à tout le moins, si on est capable d'en trouver, ça peut être justement cette collaboration-là qui s'installe, qui pourrait s'étendre après la pandémie, après la crise, pour faciliter le partage de données et d'informations.
Ça, c'est intéressant, Raymond, là, cette collaboration internationale qui fait fi, en quelque sorte, de la politique internationale, comme si on était dans un monde parallèle à part en intelligence artificielle.
Ou qui est appuyé appuyé par la politique internationale.
Ou ce serait encore mieux.
C'est comme ça qu'elle risque d'être d'autant plus durable.
Oui.
Mais la recherche peut effectivement être une brèche pour favoriser la collaboration et la coopération internationale. Parce que je pense qu'on doit parler de coopération au-delà de collaboration. Et en parallèle, ben on voit aussi que, on en parlait la semaine dernière, il y a des canaux accélérés pour publier les résultats, pour publier les articles. Donc dans un contexte où on a presque une approche de science ouverte par rapport au virus, dans la mesure où chaque chercheur peut et doit s'inspirer des recherches des autres. On n'a pas le temps de se dédoubler, on n'a pas le temps d'être dans un mode de compétition. Donc, il y a une ouverture aussi de ce côté-là qui est intéressant. Donc, d'un côté pour les données, de l'autre côté pour la science elle-même.
Oui, oui. Bon, je sens qu'on n'a pas fini d'en parler, Raymond. C'est certain qu'il y a beaucoup de choses qui... Je vois les petits experts qui s'activent dans leur laboratoire, là. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui travaille très fort de s'insérer en intelligence artificielle, en médecine aussi, là, en science. Mais bref, il y aura certainement de belles choses à se parler dans les prochaines semaines, la semaine prochaine aussi. Raymond, merci beaucoup.
Ça fait plaisir.